Bonjour à vous toutes et tous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis le frère Jean-Louis Gallo. Je suis d'un village pas très loin de Toulouse, c'est-à-dire à Bessières, au bord du Tarn. Voilà. Je suis le troisième d'une famille de cinq enfants. Je suis issu d'une famille très pauvre, puisque mon père était bûcheron et ma mère faisait des ménages. C'est important que je le dise parce que je pense que ça a contribué à mon choix de congrégation par la suite. Voilà, j'ai été pâtissier pendant 12 ans, donc j'ai fait de très bonnes choses pendant 12 ans. Puis je me suis converti à l'âge de 22 ans. Voilà. Et je suis rentré au séminaire, puis c'était pas ma voie. Et dans les années 80, je suis rentré chez les frères franciscains. Voilà. Et depuis, je suis toujours frère franciscain en mission au milieu des plus démunis de notre société, c'est-à-dire des gens qui sont à la rue. Dans mon introduction, j'avais mis ce que je viens de vous dire. Et ce qui est essentiel, c'est qu'est-ce qui a motivé en fait mon entrée chez les frères mineurs franciscains. Donc c'était les années 80 et il y avait un bouleversement dans l'Église, un mouvement, on va dire aussi, qui décidait spirituellement d'aller vers les plus démunis et de vivre au milieu des plus démunis. Voilà. Donc, quand je suis tombé sur ce document, qui est un document du chapitre général de 82 des frères mineurs, ben, j'ai dit, c'est là que je dois être. Donc, j'étais allé voir Monseigneur Coligny à l'époque, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, et je lui avais dit, voilà, c'est là qu'il faut que je sois. Donc, il m'a dit, ben, vas-y. Donc, j'y étais. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce document de Baïa, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais dans ces années 80, des frères mineurs franciscains, notamment Léonard de Boff, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, Gustavo Guterres, ont mis une réflexion en place qui plus tard a été condamnée par l'Église. Il n'était pas Benoît XVI, Joseph Ratzinger, qui était les théologies de la libération. Mais personnellement, même étudiant la condamnation, j'ai retenu trois points, et le document de Baïa, les frères mineurs, ont retenu trois points essentiels pour finalement aller à l'approche des personnes en difficulté. Alors, en difficulté, c'était au Brésil, donc surtout matériel, avec tout ce que ça induit après par la suite, hein, au niveau de la déstructuration quelquefois humaine. Donc, le premier point, c'était qu'il y avait une nouvelle lecture, en fait, des textes sacrés, donc notamment de l'Ancien Testament. Donc vous le savez certainement, l'Ancien Testament, ça débute par la Genèse, et puis ça continue de façon, comment on va dire, chronologique dans le temps. Mais si on se situe par rapport aux études exégétiques, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, les premiers textes qui datent de 8 siècles avant Jésus-Christ sont surtout les textes de la libération, hein, d'Égypte. Hein. Par le peuple d'Israël. Donc, c'est ce premier point, c'est-à-dire d'avoir une lecture des textes qui partent d'une réalité historique. C'est important. Hein? Ensuite, il y a un deuxième point, c'est-à-dire que même si Yahvé, puisque hein, on ne pouvait pas prononcer son nom, si Yahvé s'adressait à des prophètes, hein, ou à des hommes qui conduisaient le peuple, qui est par exemple Moïse, la notion de peuple est très importante donc pour rejoindre ces plus démunis. Alors, c'est vrai que ça vient un peu en contradiction avec notre monde d'aujourd'hui, où on dit la religion est une affaire privée. Et là, dans les théologies de la libération, on parle de notion de peuple. C'est très, très important. Je vous expliquerai pourquoi après. Et il y a un troisième point qui est finalement la notion de péché. S'il y a en effet une grande notion de peuple, eh bien, il n'y a pas que le péché individuel, c'est-à-dire moi, je me considère devant Dieu comme pécheur parce que je l'ai rencontré, mais il y a une notion de péché collectif, c'est-à-dire que dans la mesure où l'individu est pécheur, la personne est pécheresse, ce qu'elle construit pour construire la société, c'est-à-dire on va prendre la politique, l'économie et bien d'autres choses, la dimension sociale, va être empreinte en fait de péché. Voilà. C'est des trois points essentiels. Et si je vous l'ai dit, c'est parce que bon, je suis parti chez les frères et avec l'intention de rejoindre les plus démunis dans ces trois dynamiques. C'est-à-dire que pour moi, je ne peux absolument pas les mettre de côté. Donc, d'un point de vue personnel, c'est-à-dire dans mon histoire d'homme, hein, la rencontre avec le Christ, je vous l'ai dit, hein, il y a eu une première rencontre autour de 18 ans, et puis vraiment à 22 ans, c'est voulu pour moi avant tout libératrice. C'est ce qui explique aussi cet attrait vers ces trois points dont je vous parlais. Parce que c'était avant tout pour moi, c'était libérateur. Au sein d'une relation donc réciproque avec ce Christ, qui finalement fonde, alors là je vous parle un peu théologiquement, l'acte de foi. Hein, et nous sommes tous dans ce cas-là, c'est-à-dire un jour nous avons rencontré le Christ, et c'est cette relation réciproque qui fonde en fait notre foi. Cet acte, dans son point ultime, hein, de la relation au Christ, va m'inscrire de ce fait dans une relation de peuple. C'est-à-dire que le Christ, nous sommes le corps du Christ, Saint Paul le dit, donc si je rentre en relation avec le Christ, automatiquement, je rentre dans une dimension de peuple. Cette libération, pour moi, est toujours en mouvement. Elle s'accomplit au cœur de ma personne, mais aussi au cœur du peuple. Et elle va m'introduire dans une dynamique dont on parle peu, et je le trouve dommage, parce que je crois que dans nos sociétés d'aujourd'hui, avec la découverte des sciences, cette dynamique est essentielle, c'est-à-dire une dynamique christologique. Je vous expliquerai plus tard ce que ça veut dire pour moi, mais aussi pour Saint Paul, qui est vraiment dans cette dynamique. Du royaume qui était, qui est et qui vient. Au cœur de la relation christologique, je me libère et je vais, par ma libération, participer à la libération du peuple. Et il n'en est pas seulement pour moi, mais pour vous tous, et je l'espère. Comme franciscain, le royaume qui vient va surgir de cette confrontation. Comme le dit Saint Paul, tout, mais vraiment tout, alors c'est très actuel aujourd'hui, tout est récapitulé dans le Christ, pas seulement nous, tout. Et comme le dit le psaume, tous les univers. Donc vous voyez, c'est très actuel. Ça veut dire que la nature, le cosmos est récapitulé dans le Christ. De ce fait, rien, mais strictement rien, n'est hors du champ christologique. Strictement rien. Et de ce fait, tout, mais vraiment tout, est en devenir. C'est dans l'acte fondateur de la relation avec le Christ, alors là je fais un peu de poésie, que résonne en un seul chant à la fois l'infiniment grand et à la fois l'infiniment petit. Car si tout est récapitulé, tout est récapitulé à la fois l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et c'est ce qui procure cette ouverture à une libération, mais qui va être double. C'est-à-dire que ce n'est plus une libération seule, mais dès qu'il y a libération, il y a création. Vous comprenez la démarche? C'est-à-dire que j'ai 67 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, mais on nous apprenait que d'abord, il y avait la création. Mais moi, ce que j'ai découvert à travers l'éthologie de la libération et mon expérience personnelle, c'est qu'en fait, c'est extrêmement lié. Il ne peut pas y avoir de libération sans création et de création sans libération. C'est dans cette dynamique libératrice, au cœur de la relation, qui fait que je deviens acteur, comme participant à faire advenir le royaume au cœur d'un peuple. Je vais vous le dire plus tard, ça veut dire que je ne peux pas rester en me tournant les pouces. Ce n'est pas possible. Au sein d'une vision christologique, ainsi la parole de saint Paul, tout est récapitulé dans le Christ, résonne obligatoirement dans l'histoire des hommes et du créé. C'est dans cette dynamique que j'ai rejoint le Secours catholique par la suite, dans les années 90, et sa structure d'accueil qui était à l'époque de familles en difficulté. Dans cette dynamique, ces personnes en difficulté participent pour moi à la libération, création du royaume qui vient. C'est-à-dire que les personnes qui sont en difficulté, automatiquement, si elles sont récapitulées dans le Christ, elles participent à ce royaume qui vient, et je vous expliquerai par la suite comment. C'est ce qui va me motiver l'approche de ce public pour moi à l'époque, et ensuite du public des gens de la rue. Alors je m'explique. Quand je suis rentré au Secours catholique, c'était les années 90, des SDF. Vous savez, avant 90, il n'y en avait pas des masses. Vous alliez aller à la cathédrale, il y avait on les appelait les clochards, vous en avez un autre sur un banc. Mais on ne peut pas dire que dans la société, on trouvait des personnes à la rue, à chaque coin de rue, dans la rue même. C'est à partir des années 89, 90, que on surgit après, alors on nous a rabatiné les oreilles, hein, les chocs pétroliers, patati patata, enfin le fait est c'est qu'il y a énormément de gens qui sont allés à la rue dans ces années 89-90 et elles ont envahi en fait l'accueil des familles du Secours catholique. Donc avec le Secours catholique on s'est retrouvé embêté, on a dit mais qu'est-ce qu'on fait, et 90% des gens du Secours catholique ont dit mais on ne les reçoit pas, on ne les connaît pas, on ne les reçoit pas. Donc moi j'ai pris la parole avec une religieuse à l'époque et puis nous on a dit mais si vous ne voulez pas les recevoir, nous on les recevra, donnez-nous un espace, on les recevra. Voilà. Donc c'est à ce moment-là qu'a ouvert un espace d'accueil pour ces personnes qui étaient à la rue relativement jeunes dans les années 90 au Secours catholique. Cette réflexion du Secours catholique qui avait eu lieu sur l'ensemble de la délégation qui pour certains peut-être ont connu était rue de la Madeleine à l'époque a révélé pour moi un sens profond, c'est-à-dire de ne pas m'arrêter à ce que je vois, de ne pas m'arrêter à ce que l'on dit ou à ce que j'entends, mais d'aller plus loin. Et pourquoi aller plus loin? Ben parce que si tout ça est basé sur mon acte de foi qui est la rencontre avec le Christ, je ne peux pas m'arrêter à des schémas de société. Il faut qu'il travaille, il faut qu'il soit logé pour être heureux. Ce n'est pas possible. La personne représente certainement beaucoup plus qu'un travail et un toit. Je ne veux pas dire que ce n'est pas une nécessité, mais la personne représente davantage. Alors, les gens de la rue. Il y a plusieurs façons de les rencontrer. Et je peux vous dire qu'en 25 ans, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire « Mais comment on fait ?» Alors moi, j'ai une formule toute simple. Il y a plusieurs façons de les rencontrer et l'une n'est pas meilleure que l'autre. Ce qui est important, c'est d'être clair au départ avec eux et nous-mêmes, clair par rapport à nous et à ce qui nous habite. Voilà. Parce que j'ai vu des gars se mettre en route tout simplement parce que quelqu'un lui a fait un sourire, un autre parce qu'on lui a donné une pièce, un autre parce qu'on lui a donné un sandwich, un autre parce qu'on l'a rabroué. Donc, dire une recette dont ne vous posez plus trop de questions, comment les aborder. Faites tel que vous le sentez et le bon Dieu fera le reste. Alors cette démarche de rencontre ne demande pas seulement de la volonté, mais surtout une conviction. Et cette conviction, c'est moi, je vis dans la dimension christologique. Je ne suis pas à côté, je suis dedans. C'est-à-dire que vous tous, là, vous êtes dans la dimension christologique, à moins qu'il y en ait qui ne croient pas en Christ, ça peut arriver. Mais vous tous, vous êtes dans la dimension christologique. Que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, ça en est ainsi. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que vous allez voir, du coup, on est obligé de se mouiller. Et elle m'habite par ma relation au Christ. Cette relation, finalement, tient la place centrale dans une expérience qui repose sur un double mouvement entre le royaume, c'est-à-dire ce que je vous disais, qui est, qui était et qui vient, et le faire advenir ce royaume, à la fois chez les personnes, mais aussi au sein de la société. Vous voyez, ce n'est pas du tout repos. Il y a une sorte de double mouvement, hein. Alors cette démarche, c'est elle qui va permettre cette libération-création progressive, à la fois dans l'histoire de chacun et à la fois au sein de la création. Elle implique de façon consciente une lutte à la fois contre le péché individuel, mais aussi à la fois contre le péché collectif. Dans la vision christologique. En d'autres termes, de justice et de paix. En centralisant les dynamiques du double mouvement de construction. Vous voyez ce double mouvement ? De par le Christ, je vis dans la dimension christologique du royaume qui vient, mais par la rencontre avec le Christ, ce royaume s'incarne. Et si la dimension de péché est en moi, mais aussi dans les dimensions collectives, pour faire advenir le royaume, je dois lutter contre le péché collectif. Est-ce que vous comprenez ? Oui ? C'est pas facile à comprendre. Hein ? C'est dans cette démarche que surgit ce que j'appellerais la bonne heure. Alors vous savez, Sainte Thérèse d'Avila disait « Seigneur, je comprends que tu aies si peu d'amis, à voir comment tu les traites. » Voilà. Le fait d'être croyant, il y a un bonheur qui est celle de la rencontre avec le Christ, celle d'être dans la dimension christologique, celle de, comment dire, de faire en sorte que le royaume advienne. Mais, comme dit Saint Paul, il faut foutre une cuirasse, il faut mettre... On part au combat, quoi. Hein, on ne part pas avec des marguerites entre les orteils. Voilà. Ou encore, le moment où surgit la genèse de l'acte libérateur-créateur. C'est-à-dire que dans cette rencontre avec le Christ, finalement, je renais. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, à travers Nicodème. Mouvement incessant qui nous projette en avant, et les personnes de la rue deviennent alors des révélateurs de péchés de société. Alors ça aussi c'est important, parce que ça veut dire que notre regard sur les gens de la rue ou les personnes démunies va changer. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller à la rencontre vers eux seulement pour les aider à s'en sortir, mais pour les regarder comme des révélateurs du péché collectif. Alors je vous donne un exemple. Dans quatre, c'est pas trop long? Non? Ça vous va? Je ne vous endors pas? Non? Sinon, on fait un exercice. Hein. Alors, dans 85% des cas, les personnes qui sont à la rue cherchent à vivre leur galère avec d'autres. Hein, vous avez entendu parler des squats, et il y en a eu à Ramonville, hein, je suis venu plusieurs fois. Hein, avec d'autres, et ensemble, ils ouvrent des squats. Pour les autres, ils vont s'exclure de tout lien social et vivre en retrait. Alors, vous pouvez vous en apercevoir, très souvent, on voit des tentes qui sont très isolées. Donc ça, c'est ceux, vous voyez, qui partent, qui se coupent des liens sociaux et qui vont vivre en retrait. Si nous regardons de plus près, les deux sont motivés par ce qu'on pourrait dire l'isolement, qui soit s'intensifie, c'est-à-dire ceux qui vont et qui provoquent de l'exclusion, soit qui s'exprime par le fait d'une recherche de vivre ensemble. Je pourrais m'arrêter à cela et même entrer dans des clichés, parce que vous savez, les squats, quelle image vous en avez? Honnêtement, si on est honnête, ils cassent tout, ils puent, ils foutent de la musique jusqu'à 2h du matin, hein? C'est pas vrai? Très souvent, c'est ça. Hein? Donc, soit je m'arrête là, soit si je suis allé à leur rencontre par l'acte de foi, je vais plus loin. Parce que si je m'arrête là, je passe à côté de ce qui est révélé vraiment. Et ce qui est révélé, c'est une véritable accentuation de l'isolement et surtout la recherche d'une vie avec d'autres. Les personnes de la rue, de ce fait, il y a 20 ans, étaient les révélatrices d'un double problème de société. Et actuellement, 20 ans, 30 ans après, nous voyons surgir des habitats collectifs un peu partout, hein, dans toutes les couches de la société et dans différentes classes. Mais nous avons découvert également et observons encore l'accentuation de l'isolement. Ainsi, je découvre le malaise et les forces de vie qui se mettent en place pour y remédier. Si je fais ce parcours avec eux, je découvre la dimension de peuple à leur niveau, vu qu'ils sont tous en marche à cause de l'isolement, et au sens large de création. Et je m'introduis à nouveau dans cette dynamique christologique de libération-création. En plus simple, il y a 20 ans, les personnes de la rue nous révélaient une réalité à combattre et nous procuraient des outils pour combattre cette réalité. Car qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que l'isolement grandit et que nous sommes bien obligés de chercher des outils pour y remédier à notre tour. Et c'est pour ça que vous voyez des maisons intergénérationnelles, vous voyez des seniors qui se mettent à plusieurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est que les plus démunis sont partis à la rue par isolement, donc ils nous révèlent l'isolement de la société qui est en train de se mettre en place, et par leurs moyens de force de vie mettent en place des choses pour y remédier. Et c'est ce qui surgit 20, 30 ans après, au niveau de toutes les couches sociales et de tous les âges. Les étudiants qui se mettent en colocation. Et alors, nous devons nous interpeller, parce que ça veut dire que ça grandit, l'isolement. Donc, qu'est-ce qui fait que dans la société, cet isolement, quelle est la part du péché dans cette société qui fait que l'isolement grandit? Est-ce que vous comprenez ce mouvement? Au travers de leur expérience, donc, ils ont 20 ans, 30 ans d'avance, et nous projettent dans cette dynamique de l'acte de relation fondateur qui est la bonne heure. Alors, que pouvons-nous en déduire? Eh bien, que les personnes vivant à la rue sont et étaient des révélateurs d'un isolement, comme je vous le disais, qui pourrait, à son extrême, et ça, c'est ceux qui se mettent, vous savez, à l'écart de plus en plus, coupés de tout lien relationnel. Alors, vous savez, je fais partie de Goutte de Vie. Je sais pas, il y a un monsieur là-bas, je l'ai vu, il en fait partie. Goutte de Vie, c'est une association qui s'occupe d'accompagner des gens à la rue, mais de les accompagner aussi dans les célébrations et dans la mise en terre. Il y a Michel aussi qui en fait partie, Odile, il y en a plusieurs. Et à un moment donné, la mairie de Toulouse a demandé à cette association de s'occuper des obsèques des personnes qui mouraient seules et qui n'avaient pas de famille ou d'amis. Et on a dit, combien y en a-t-il par an? Alors Michel, tu as peut-être le chiffre mieux que moi, mais on n'a pas voulu tout faire parce qu'il y en avait trop. Donc vous voyez, l'isolement, il ne concerne pas. Et donc, dans certains cas, on retrouve des gens de la rue morts dans leur tente, au loin, parce que coupés de tout lien social. Mais heureusement, la plupart cultivent des mouvements de service tels que la dimension communautaire quand ils ouvrent les squats. Donc surtout, ne nous arrêtons pas aux clichés. Bien sûr que les squats, souvent, ça capote, mais essayons, dans notre acte de foi, de voir ce qu'ils nous révèlent. C'est ce qui est important. Si nous récapitulons, cette dynamique devient l'espace de respiration de toute croyance, cette dynamique christologique. C'est là que je respire. En fait, c'est à la fois mes poumons, mon cœur, c'est moi, notre respiration, la dimension christologique. Si je ne suis pas dans ce royaume qui vient, mais je me tire une balle dans la tête et puis terminé. Vous comprenez? Donc, c'est un combat quotidien pour cette double dimension de libération-création au sein de la dimension christologique. Celui qui accède par la relation au Christ à cette dimension du royaume qui vient n'a pas de lieu pour reposer sa tête. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Alors, ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas partir en vacances pour se reposer. Hein. Mais nous devons nous rendre compte à l'évidence que ce n'est pas un lieu pour reposer sa tête. Son repos se retrouve seulement au sein du vécu quotidien de la relation au Christ, lui-même ouverture à la relation, moteur du bonheur qui me transforme et au-delà de moi transforme l'autre. Et de ce fait, la création et qui agit au cœur de l'histoire humaine. Alors, mais je ne veux pas oublier le pourquoi je suis avec vous, hein, témoignage de ce que je vis. Pour ce faire, avec le temps et grâce aux différentes interpellations qui m'ont été adressées, j'ai essayé de penser dans cette dynamique une pédagogie du quotidien de la relation avec les personnes de la rue que je rencontre, avec lesquelles je vis, avec lesquelles je travaille. Ce matin, on en a fait de la maçonnerie. Il a fallu abattre un mur. C'était pas triste. On y est arrivé. Au début, on s'est dit, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Mais si, si, on y est arrivé. On est arrivé. Alors, je dirais que cet essai de pédagogie se situe en 6 étapes. Donc, vous avez l'approche, l'écoute et le dialogue, la mutualisation, l'apprentissage, la construction et l'accomplissement. Et vous allez voir, je ne sais pas si je vais réussir, mais ce que je voudrais essayer de vous faire toucher du doigt, c'est que en étant sur notre acte de foi, c'est-à-dire sur la relation au Christ, nous pouvons vivre une vie avec les autres qui ne sont pas croyants, dans une même dynamique, et que eux-mêmes sont dans cette dynamique. Et ça, j'aime ça, parce que du coup, vous savez, quand on vous dit, oh là, il n'y a plus de croyants, les églises se vident, patati patata, ben oui, c'est vrai, mais en même temps, si vous êtes dans cette dynamique, pouf, en fait, je vais peut-être vous heurter, mais j'en ai des fois rien à faire. Parce que je trouve qu'il y a l'Esprit Saint est partout. Voilà. Alors, comme je l'ai souligné, il faut avoir la conviction que la rencontre entre le Christ et moi-même est source de libération, création au sein de l'histoire par rapport au royaume qui vient. Qu'elle m'introduit cette relation dans la dimension christologique du royaume, passé, présent, avenir. Quelle est la source de dynamique pour le combat contre le péché individuel et collectif, et que le péché collectif est source d'injustice et de non-paix. Ainsi, je vis une tension entre le royaume qui advient et le combat au sein de l'histoire. C'est la prise de conscience de la réalité de cette tension qui déclenche chez moi l'approche de ceux qui sont les révélateurs du péché collectif, les plus fragiles, les plus exclus, ceux qui sont écartés des liens sociaux. Pour moi-même, dans nos sociétés occidentales, les personnes les plus fragiles sont les gens de la rue, les exclus de tous liens sociaux, que je rejoins dans cette dynamique d'acte de foi. Cette approche ne peut exister que dans la réciprocité. C'est-à-dire que s'il y a réciprocité dans ma relation avec le Christ, il ne peut y avoir que réciprocité dans la relation avec les personnes de la rue. Cultiver la réciprocité de l'approche, c'est apprendre à se respecter mutuellement, à se découvrir mutuellement. Alors la réciprocité, vous savez, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est sortir des clichés. C'est-à-dire la réciprocité, c'est pas je parle, il parle, j'entends, il entend. C'est beaucoup plus profond que ça, la réciprocité. Parce que finalement, nous parlons pas seulement par des mots, mais par des gestes, des attitudes, par le temps. Ça a dû vous arriver dans votre vie. Quelqu'un qui, avec qui vous parlez, puis vous vous dites, de toute façon, celui-là, je me demande pourquoi je... Parce qu'alors, il n'a rien entendu. Et puis, 10 ans plus tard, vous le rencontrez, puis ça m'est arrivé, donc je me doute que ça vous est arrivé. Et la personne vous dit, ah, tu te souviens quand tu m'as dit ça? Alors, à ce moment-là, c'est vous qui ne vous rappelez plus, mais lui, il se rappelle. Hein? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, l'approche, la réciprocité, c'est beaucoup plus profond que ce que nous pouvons le penser. Et dans cette approche, il y a surgissement d'une écoute mutuelle qui est liée à l'expression toujours naissante du dialogue. Vous voyez, ça, c'est important. C'est-à-dire, ce n'est pas arrêté dans le temps. Quand on nous parle de résurrection, vous savez, moi, ce que j'aime dans la résurrection, c'est que la résurrection, elle ne fait pas ça. Elle fait ça. Et donc, de ce fait, obligatoirement, eh ben, dans l'écoute, le dialogue, il est toujours en mouvement, tout le temps. De ce fait, il est toujours naissant. Et, mais ça, c'est plein d'espoir. Je reviens à Sainte-Thérèse d'Avila qui disait j'arrête de penser Dieu, je le vis. Vous voyez? Écoute et dialogue sont, de ce fait, liés et sont l'écho d'expressions mutuelles, entendues, qui permettent de se retrouver sur des bases communes liées à notre être profond. Et ça, tous, vraiment tous, nous avons un être profond. Croyant ou pas croyant. C'est comme si c'était une boîte à outils qui s'ouvrait à chacun de nous afin de pouvoir nous les approprier, ces outils, et à mesure de se les approprier, vous voyez, on retrouve la Genèse, hein, les nommer, les reconnaître. C'est-à-dire trouver l'utilité de chacun, reconnaître l'utilité de chacun, pouvoir les nommer à travers cette utilité. Ainsi, nous nous ouvrons peu à peu à la reconnaissance de chacun qui va permettre un assemblage des outils. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai des outils, nous en avons tous. Alors qu'est-ce qu'on va faire de ces outils? Hein? Ben, la mutualisation, pour moi, elle commence au moment de l'assemblage des outils. Vous voyez, pour les personnes de la rue, c'est très important, parce que ça veut dire que vous voyez la personne de la rue comme une personne ayant des outils, comme vous, et cette relation va vous permettre, finalement, d'assembler les outils pour grandir ensemble. C'est-à-dire, c'est plus moi, là, vous savez, celui qui sait, celui qui est bien installé socialement, qui va apprendre à la personne SDF eh ben, à se resocialiser, à re-rentrer dans le cursus. Non. Je suis en face, je découvre avec lui mes outils, il découvre ses outils, et nous mutualisons pour construire ensemble. Vous voyez? Nous allons, de ce fait, plus loin que l'écoute et le dialogue, par l'échange qui va rendre le projet beaucoup plus fort. Parce que bien sûr, s'il y a une mutualisation des outils, il y a un projet qui germe. On ne va pas mutualiser des outils simplement pour le plaisir de les mutualiser. Car ils reposent sur une dynamique commune qui va nous permettre à nous-mêmes et peut-être à d'autres personnes d'être interpellé et de se mettre également en route grâce à la mise en commun des outils. C'est-à-dire que dès que deux personnes mettent des outils en commun, ça interroge d'autres. Vous voyez? Alors, c'est là, ça demande une ouverture, toujours pareil, l'acte de foi, hein, la relation au Christ, parce que quelquefois, vous savez, on est un peu fusionnel des fois, hein. On met des outils en place avec quelqu'un d'autre, puis on se dit, je voudrais surtout pas qu'il en arrive un troisième, vous voyez? Ben non, là c'est le contraire. C'est-à-dire que des outils vont attirer d'autres personnes et on va accepter, parce que ça repose sur l'acte de foi, ces autres personnes qui vont encore amener des outils, mais toujours dans le même sens, vous voyez? Et alors on en arrive à l'apprentissage. Chacun apprend non pas seulement à reconnaître ses propres outils, à les assembler, mais à faire en sorte que peu à peu les outils, en se mutualisant, deviennent et permettent une construction en vue du projet. C'est-à-dire que, à partir de là, moi et celui que j'ai en face, nous nous construisons. Voyez? Ainsi, nous avons là tous les éléments nécessaires pour nous permettre de penser finalement un projet qui advient. Voyez le lien entre le royaume qui advient et le projet qui advient? Voyez? Hein? Alors, si je ne sais pas si j'expliquais ça. Vous voyez, dans la société aujourd'hui où on veut nous mettre au privé, vous voyez? Bon. Le projet, de ce fait, pose des bases communes au sein de l'histoire et en vue d'une édification. Donc, bien entendu, il va falloir construire ce projet. À ce stade, je réalise que je ne parle pas seulement d'une vue matérielle des outils, mais d'une dynamique beaucoup plus large qui permet à deux personnes, à un groupe, de construire sur des bases solides. Ainsi, la construction s'élargit à la notion de peuple. Voyez? Ayant des outils en commun, faire en sorte que la construction advienne, je retrouve la dimension de peuple, c'est-à-dire que je ne suis plus tout seul, je suis avec un ensemble de personnes, parce que ça repose vraiment sur l'être profond. La réalisation a un double objectif, révéler ce qui est nécessaire et vital à un peuple et ce qui est néfaste ou dangereux pour ce même peuple. En vue d'un accomplissement du projet qui était enfermé. En effet, si nous n'avons pas la relation au Christ, si nous n'avons pas la relation aux autres, nous ne pourrons pas avoir cette libération du croyant et cette création du croyant. Et de ce fait, rejoindre les autres dans leur désir de libération et de création. Ainsi se parcourt à la base entre deux personnes, parce que fondé sur un acte de foi libérateur-créateur ne peut m'inscrire obligatoirement que dans une dimension de peuple. Si les personnes de la rue dans les années 90 n'avaient pas, pour moi, révélé tout cela, je ne vivrais pas aujourd'hui avec eux dans le projet où je suis actuellement, c'est-à-dire je vis dans une, on va appeler ça un squat légalisé, mais qui est reconnu par tout le monde, hein, et où nous vivons ensemble dans une dynamique de projet. Mais cela révèle aussi, comme je vous le disais, la dimension de peuple. Alors je vais terminer par un exemple. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Dans les années 90, toujours revenons dans ces années-là, puisque c'est là qu'a surgi vraiment tous ces gens qui étaient à la rue. D'ailleurs, peut-être vous vous souvenez, l'Église avait été très interpellée aussi à ce moment-là. Ils avaient créé un document, des nouveaux modes de vie ou un truc comme ça. Hein, vous vous souvenez certains, hein? Et c'est vrai que l'Église avait été interpellée, l'État avait été interpellé, les collectivités locales avaient été interpellées. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas résolu le problème de fond. On n'a pas évolué par rapport à la société de péché. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça dure? Ça dure. Et alors ces personnes, elles se retrouvaient à la rue, bien sûr, soit elles se faisaient voler les papiers, soit elles les perdaient. Mais comme elle n'avait pas de résidence stable, elle ne pouvait pas les refaire. Donc le fait qu'ils se rencontrent, qu'ils en parlent, et que nous, au Secours catholique, on entende, ensemble, on s'est dit, ben, on va aller tous les mercredis soirs devant le musée des Augustins, oui, on va faire signer une pétition. Voyez? On a fait ça pendant 6 mois. Et quand on a eu suffisamment de signatures, nous avons interpellé les députés. Et du coup, une loi est passée à l'Assemblée nationale disant qu'il y allait avoir des lieux pour des domiciliations postales. Mais ça n'existait pas en 90. Vous voyez la notion de peuple, hein? C'est-à-dire que du coup, toutes les personnes qui étaient à la rue étaient touchées par cela, vous voyez? Voilà.